France Info.
Et bienvenue à tous. Le 8h30 politique de France Info à la radio, bien sûr à la télévision. Vous nous suivez sur le canal 27 de la TNT. À mes côtés, Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Lucie.
Et notre invité du jour est eurodéputé écologiste.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour monsieur.
L'Europe vit évidemment encore sous le choc des attentats qui se sont produits à Barcelone et à Cambrils. Comment lutter contre le terrorisme, c'est la question principale. Et dans ce débat difficile, compliqué qui est devant nous depuis maintenant quelques années, certains en France disent on ne nomme pas suffisamment l'adversaire, on a des pudeurs à le faire. Écoutez, le député Alain Marceau, c'était il y a 2 ou 3 jours...
On n'a pas osé nommer l'ennemi, on n'a même pas dit un seul...
Donc on va écouter Alain Marceau sur BFM qui se plaint du fait que nous ne nommions pas assez nettement la menace qui est la nôtre.
On n'a pas osé nommer l'ennemi. On n'a même pas dit un seul moment qu'il s'agissait de l'islamo-fascisme, que c'était l'islam intégriste qui motivait ce genre d'action. Mais comme si on avait peur de nommer l'ennemi, je peux vous y assurer que si on a peur de nommer l'ennemi, on ne risque pas de gagner cette guerre.
On a peur de nommer ceux qui nous menacent, de nommer notre ennemi, comme le dit Alain Marceau.
Je ne crois pas. Je pense qu'on a tous dit à quel point à la fois le djihadisme, une forme d'islamo-fascisme, comme c'est dit, à la fois les pays qui ont pendant des années exporté, financé cet islamo-fascisme, à la fois tous les processus de radicalisation extrêmement dangereux. Donc je ne crois pas qu'on ait des difficultés à nommer l'ennemi. La question qui nous revient aujourd'hui, c'est de trouver toutes les conditions, y compris les conditions politiques, pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Pourquoi je dis ça ?
C'est quoi les conditions politiques ?
Parce que je vois que trop souvent encore, dans notre débat politique, on instrumentalise ou on politise le débat sur la lutte contre le terrorisme. Vous voyez ce qu'il y a eu sur l'état d'urgence, le débat sur le réseau Sentinelle. À chaque fois, on a l'impression d'une forme d'instrumentalisation du débat sur le terrorisme à des fins politiciennes. Moi, j'ai toujours porté l'idée qu'il fallait un Conseil national de lutte contre le terrorisme rattaché au président de la République. Il a déjà mis en place un conseil, oui, mais où il y a surtout les experts et les services. Moi, je souhaiterais qu'il y ait tous les représentants des partis politiques, des groupes parlementaires, pour s'assurer qu'ensemble, en dehors de toute instrumentalisation, en dehors de toute polémique, on se concentre sur ce qui est efficace. Est-ce que le réseau Sentinelle est efficace ou pas ? Mais au moins qu'on ait, y compris vis-à-vis de nos citoyens, la parole la plus unie possible pour pouvoir dire « là, vous avez un besoin ». De visibilité des forces de sécurité. Mais les moyens qu'on affecte là sont pas forcément les plus efficaces. Il faudrait mieux les affecter ailleurs, dans le renseignement de proximité, dans la police de proximité, dans la coopération européenne. Vous savez que je porte l'idée d'un FBI européen. On a besoin, au moment où ces terroristes voyagent, de plus de coopération européenne.
Mais on a des tentatives, par exemple, d'établir des centres de déradicalisation en France. Il y en a un récemment qui, à peine ouvert un an après, a été un fiasco total. Donc on fait des tentatives quand même dans le désendoctrinement et on est face aussi à nos manques de compétences à ce niveau-là.
On est face à des manques de compétences, on est face aussi, reconnaissons-le, à des formes de terrorisme qui sont extrêmement compliquées à combattre. Quand aujourd'hui un terroriste qui potentiellement s'est radicalisé en 2-3 jours sort avec un couteau dans la rue pour essayer de tuer un militaire, évidemment c'est extrêmement difficile à combattre. Mais du coup, la nécessité absolue de mettre tous nos moyens là où c'est efficace, sur les réseaux Internet, de leur communication. On lit aujourd'hui dans la presse, moi je ne suis pas un expert des réseaux, ni au fond de la lutte contre le terrorisme, mais on lit qu'ils arrivent à communiquer sur des réseaux où nos services de renseignement ont beaucoup de mal à pénétrer.
Bien sûr, oui.
Donc il faut renforcer ces moyens-là pour dès qu'il y a une communication qui potentiellement porte un risque terroriste, qu'on puisse intervenir en amont. Parce que dans ce truc-là, c'est toujours la prévention qui gagne.
Et l'une des questions qui est posée à nos sociétés, l'attentat de Barcelone l'a bien montré, c'est comment protéger ces lieux où se rassemblent des foules. Christian Estrosi, maire de Nice où s'est produit bien sûr l'année dernière l'attentat que nous avons tous en mémoire. Christian Estrosi propose lui de créer un fonds européen pour aider les villes à protéger l'espace public. On l'écoute.
Je pense qu'il pourrait y avoir un fonds européen spécifiquement dédié à accompagner les communes européennes qui s'engagent à faire des investissements pour protéger leur population, leurs visiteurs, notamment les communes touristiques.
C'est une bonne idée, un fonds européen ?
Bien sûr, il faut des fonds. On sait à quel point aujourd'hui il faut créer des sas en matière de circulation avant toutes les zones piétonnes. C'est vrai que c'est toute la réflexion qui est menée par les villes en matière d'aménagement urbain pour qu'on ne puisse pas arriver à forte vitesse sur une zone où il y a beaucoup de monde. Donc il faut ça, mais il faut aussi, après,
au-delà... Il faut pratiquement fermer les villes.
Non, la question n'est pas de fermer les villes, parce que ça sera toujours extrêmement compliqué. Mais il faut s'assurer que sur des zones de concentration de population, une voiture ne puisse pas arriver à vitesse élevée. Il y a déjà des villes qui expérimentent ça, donc il faut renforcer ça. Mais au-delà de ça, si je peux me permettre, on voit bien à quel point nos sociétés sont confrontées à des enjeux majeurs, ces enjeux de menace, et que nous devons aussi... Parce que réfléchir et travailler à ce que nous sachions pourquoi, qui on est, nous sachions pourquoi nous voulons totalement combattre cette barbarie. Qu'est-ce qui fait société entre nous? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui fait qu'on sait ce que l'on est et que justement, on va combattre les barbares? Et je trouve que, incontestablement, le débat politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur de cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'on raconte à notre jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'on les emmène dans un projet qui fait commun, qui fait ciment dans la société, qui nous réunit, y compris pour combattre la menace terroriste, parce que nous savons quelles valeurs nous défendons?
Et là, vous estimez que la lutte antiterroriste nous désunit plus qu'elle nous unit aujourd'hui?
Non, je pense que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui se renforce, devient de plus en plus efficace et extrêmement compliquée. Je pense qu'en revanche, on ne fait pas le travail qu'il faut, y compris pour soutenir ceux qui sont le ciment de la société. Mmh. Quand les militaires sont en situation aujourd'hui d'être clochardisés, voient leur budget réduit, sont mis dans des conditions de travail et de vie exécrables. Quand nos forces de police sont dans des situations exécrables aussi dans les commissariats, quand dans les jours qui viennent, on va réduire les budgets de l'enseignement, de la santé, qui sont, tous ces acteurs sont le front de la République, qui fait qu'on est ensemble, qui fait qu'on est fort contre ces terroristes. Et à partir du moment où on dégrade ces services publics, on se met en situation difficile, toujours vis-à-vis des terroristes.
Yannick Jadot, vous ne bougez pas, la suite du 8h30 politique, c'est juste après l'essentiel, il est 8h40. Stéphane Milhomme.
Près de 2000 personnes, dont le roi d'Espagne, à la Sagrada Familia de Barcelone, mais aussi une cérémonie hier à Notre-Dame de Paris, deux messes en hommage aux victimes des attentats de Catalogne. La police espagnole est toujours à la recherche du dernier suspect, Younes Abu Yacoub, 22 ans. Au moins 10 marins américains portés disparus dans les eaux de Singapour. 5 blessés de long selon l'US Navy. Les suites d'une collision cette nuit entre un destroyer américain et un pétrolier. La SNCF annonce un remboursement exceptionnel pour les voyageurs concernés. Un geste après la galère samedi à cause d'un incendie à hauteur d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Près de 3000 voyageurs ont dormi dans des TGV. Lente reprise du trafic depuis hier après-midi entre Marseille, Lyon et Lille. Et puis il était le roi de la comédie américaine, plus de 60 films au compteur. Jerry Lewis est mort hier à 91 ans. Aux États-Unis, il avait également initié le Téléthon. Et d'ailleurs, l'Association française contre les myopathies salue ce matin un immense comédien engagé aussi dans ce combat.
La suite du 8h30 politique de France Info, nous sommes toujours avec Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste, et avec nous Jean-Michel Apathy.
La rentrée se prépare, le gouvernement va présenter à la fin du mois sa réforme complète du code du travail, et puis il y a un autre débat aussi qui est arrivé, la fin des emplois aidés, selon la ministre du Travail. Ces emplois aidés qui coûtent très cher au budget de l'État n'ont pratiquement pas d'effet positif sur le marché du travail. On écoute Muriel Pénicaud à l'Assemblée nationale.
1. Les contrats aidés sont extrêmement coûteux pour la nation. 2. Ils ne sont pas efficaces dans la lutte contre le chômage. Et 3. Ils ne sont pas un tremplin pour l'insertion professionnelle.
Voilà, ça c'est une exécution en règle. Muriel Pénicaud a raison, Yannick Jadot?
Non, elle a tort.
C'est vrai?
Est-ce qu'il faut renforcer toujours l'apprentissage, l'insertion professionnelle? Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui les emplois aidés sont inutiles pour la société, coûtent extrêmement cher? Je conteste cette version des faits.
Qui coûte cher, oui.
Oui, enfin, on a fait le CICE, on a fait, ça coûte 30, 40 milliards pour 100 000 emplois. Là, on est dans des emplois qui coûtent beaucoup moins cher.
4 milliards l'an dernier.
Je parlais, vous voyez, donc on est sur des chiffres beaucoup moins élevés. Je parlais tout à l'heure de ce qui fait le ciment de la société. Dans ces emplois aidés, il y a plein aujourd'hui de jeunes qui travaillent dans les associations. Ce gouvernement a aussi flingué les subventions aux associations de quartier qui permettent, dans des zones où il y a très peu de services publics, de faire encore du lien. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on va proposer à nos jeunes ?
En fait, il faut rien changer.
On réduit les APL.
Il faut rien
on
changer.
On supprime les emplois aidés. On va faire des contrats zéro heure. Regardez en Italie, avec les réformes du marché du travail, les jeunes sont en train de s'enfuir d'Italie. Est-ce que c'est ça qu'on propose à nos jeunes ? Est-ce que on va continuer à supprimer ? Vous savez, il y a combien ? 6 millions de bénévoles dans notre pays, dans les associations. Ces associations vivent aussi du fait des emplois aidés. Vous avez des emplois aidés dans la fonction hospitalière. Vous avez des emplois aidés dans l'éducation. Ce sont essentiellement des emplois aidés qui aident les personnes handicapées dans notre pays. Et c'est ça qu'on veut supprimer ?
Donc,
est-ce que c'est ça
l'avenir
qu'on propose aux
jeunes ? Au moment de faire des économies, vous ne comprenez pas, Yannick Jadot, qu'on pense même à réduire les contrats aidés, qu'on essaye de rogner sur ce poste-là.
Mais la question, est-ce qu'il faut faire des économies ? Oui, ce gouvernement, comme le précédent, en 2 ans, on a mis 17 milliards d'euros. 17 milliards, pas 4, 17 milliards sur le nucléaire, Areva, EDF et tout ça, pour sauver une industrie en faillite. Oui, il faut faire des économies, là où c'est utile.
Vous, c'est là
mais
que...
faire des économies aujourd'hui, pardonnez-moi, faire des économies aujourd'hui sur la santé, sur l'enseignement, sur l'accompagnement des enfants en périscolaire. Est-ce que c'est ça la nécessité dans notre société ? Je ne le crois pas. Ces personnes contribuent à faire ciment, contribuent à faire société. Et je trouve ça qu'il faille toujours améliorer. D'accord. Mais que franchement, le message qu'a envoyé à notre jeunesse aujourd'hui, c'est réduction des APL. Vous avez fait des reportages ce matin sur l'élévation du coût du logement. Réduction des APL, suppression des emplois aidés, contrats à zéro heure, si c'est ça la perspective, non merci.
Bon, vous avez dit d'une phrase rapide, je ne sais pas à quelle réalité ça renvoie, mais on expertisera ça, que les jeunes s'enfuyaient d'Italie. On aura l'occasion de revenir sur cette affirmation.
Vous verrez à quel point aujourd'hui des jeunes s'en vont parce que la façon dont ils sont précarisés sur le marché du travail italien font qu'ils quittent l'Italie.
Votre ami Nicolas Hulot siège au gouvernement, vous êtes déçu par son action ?
Nicolas Hulot est une personnalité magnifique d'engagement et de conviction.
Est-ce que son action vous déçoit ?
L'action du gouvernement me déçoit très clairement.
Et donc celle de Nicolas Hulot aussi.
Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement ? On a eu un repli sur les néonicotinoïdes, on a eu un recul absolument inacceptable sur les perturbateurs endocriniens quand on connaît les conséquences sanitaires. Nous voyons le scandale des œufs contaminés où le ministre de l'Agriculture préfère défendre l'agrobusiness, préfère défendre des systèmes d'élevage absolument inacceptables plutôt que l'information du consommateur, plutôt que notre santé, plutôt que de défendre des pays qui respectent les animaux, la terre et qui nous respectent par une alimentation de qualité.
Et on n'a pas du tout entendu Nicolas Hulot sur ce dossier.
Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, Macron, comme sur beaucoup de choses, a fait pour l'instant un gros coup de com' avec Nicolas Hulot, parce que c'est une personne absolument remarquable, mais que ce gouvernement, dont beaucoup de ministres ont des années et des années méprisé l'environnement, combattu les solutions écologiques, je pense qu'il est en train de se faire asphyxier par ce gouvernement.
Donc il est déjà coincé, là ? Il n'a pas les moyens de ses ambitions.
Déjà coincé, regardez comment s'organisent les états généraux de l'agriculture. C'est le ministre, c'était une idée
de l'alimentation.
De Nicolas Hulot.
De l'alimentation.
Et de l'alimentation. Mmh. Et ben, regardez comment ça s'organise. C'est le ministre de l'Agriculture avec la direction de la FNSEA, la grande distribution et l'agrobusiness. C'est pas comme ça qu'on va sauver nos paysans. La moitié de nos paysans vivent avec moins de 350 euros par mois parce qu'ils sont pris dans un système intensif qui vit de perfusion chimique et qui vit de subventions publiques.
Écoutez,
il faut réformer ça pour sauver nos paysans et nos campagnes.
Écoutez ce que disait à propos de Nicolas Hulot, c'était à la fin du mois de mai, donc il y a déjà près de 3 mois, Jean-Luc Mélenchon qui parle de Nicolas Hulot, on l'écoute sur France 3.
Dans 6 mois, il s'en va, quoi. Et si ça tient, en 6 mois.
Vous pensez que dans 6 mois, il sera parti ?
Mais évidemment, mais M. Hulot est un écologiste, il faut quand même se rappeler de ça. Mais ce n'est pas le cas du Premier ministre qui est un nucléariste.
Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui Yannick Jadot, à Nicolas Hulot, de se poser la question de son départ ?
Non, parce que l'affaire n'est pas pliée.
Bah, telle que vous la décrivez, elle est mal partie.
Non, mais voilà, parce que je prends acte des premiers mois d'action de ce gouvernement. Vous savez, la transition écologique... Par exemple, si on prend la question de l'énergie, c'est pas seulement mettre de côté le risque nucléaire, c'est pas simplement lutter contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est une opportunité extraordinaire de relocaliser l'économie autour de la rénovation du bâtiment, des artisans, des architectes, des cadres, des ingénieurs du bâtiment. toutes les PME des énergies renouvelables, sur tous nos territoires. L'agriculture paysanne, c'est des paysans heureux qui, encore une fois, aménagent nos territoires, les transports collectifs. Donc, il y a une opportunité extraordinaire de relancer notre économie, de refaire ciment dans la société autour de la transition écologique. Oui, ça, c'est le combat que je mène au Parlement européen ou au niveau
théorique,
local.
Mais il vous semble que Nicolas Hulot n'aura pas les moyens de mener
aujourd'hui mon sentiment est que ce gouvernement tente d'asphyxier Nicolas Hulot, de le mettre comme une tête de gondole sur la question de l'écologie, mais au fond de ne pas inscrire les ruptures nécessaires dans notre société. Regardez Emmanuel Macron, j'ai très fortement critiqué l'invitation qui avait été faite à Donald Trump. On a déroulé le tapis rouge à Donald Trump le 14 juillet pour fêter la liberté, l'égalité, la fraternité. Non seulement Donald Trump a fait un bras d'honneur...
Et l'aide américaine pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, mais enfin, on a trouvé opportunément ce sujet quelques jours avant. D'accord. Ok, c'était pas quelque chose qui était prévu de long terme. Donald Trump a fait un bras d'honneur à l'humanité, à l'accord de Paris sur le climat, et aujourd'hui, c'est l'ami des suprémacistes blancs. Est-ce que c'est ça? On déroule le tapis rouge à Donald Trump.
Il n'y a pas beaucoup de rapports avec Nicolas Hulot, mais bon, comme ça, vous avez
Non, parce que quand on invite le message sur le climat, c'est ce type qui fait un bras d'honneur à l'humanité sur un des défis les plus importants que nous avons devant nous. Il est invité avec le tapis rouge le 14 juillet. Eh ben, c'est totalement incohérent avec l'engagement, l'ambition de la lutte contre le dérèglement climatique.
Voilà. Bon, la gauche, pendant ce temps, ça va toujours pas mieux, hein.
Il faut travailler. Moi, j'ai qu'une ambition. C'est améliorer la qualité de vie des Français au quotidien et c'est protéger les générations futures, protéger notre santé, protéger celle de nos enfants. Et on peut le faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous avons un boulevard pour améliorer la vie et pour qu'on soit dans une société où nous allons mieux. Et c'est ça la transition écologique, c'est ça que je défends.
Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, 8h30 à Paty. On se retrouve demain.